Il est 8h.
Ça nous fait rêver et on est content que ça puisse justement se transmettre vers les gens parce que dans ce monde justement de Covid, ça apporte un petit peu de rêve et ça fait juste briller les yeux.
Ah, les yeux qui brillent, ce sont ceux des scientifiques qui participent à la mission Persévérance. Emmanuel Macron rend visite aujourd'hui à ces Français qui vivent à l'heure martienne. C'est l'un des défis majeurs d'une campagne planétaire, la vaccination de l'Afrique. C'est là aussi que se joue l'avenir de la pandémie en Europe. Reportage sur place et explications. Et puis, un an après la déflagration Polanski, c'est le retour des Césars ce soir. Malgré la crise économique, le cinéma français veut montrer un nouveau visage. Juste après ce journal, l'invité d'Europe Matin avec Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On parle beaucoup bien sûr des vaccins dans la lutte contre l'épidémie, mais qu'en est-il des traitements? L'Institut Pasteur de Lille travaille sur un médicament prometteur. Eh bien, on va évoquer cela avec le directeur de l'Institut Pasteur Lille, le professeur Xavier Nassif. Rendez-vous 8h15.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est avec vous Rémi Bossaron. Bonjour Rémi.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. C'est à Toulouse que bat aujourd'hui le cœur spatial de la France. Un cœur qui bat avec appréhension face aux nouvelles menaces militaires venues de l'espace. Nous y reviendrons. Mais un cœur qui bat avec émotion aussi au rythme des images envoyées depuis mars par le robot Persévérance avec sa petite caméra de fabrication française. Emmanuel Macron sera au CNES à Toulouse donc, aux côtés de ses scientifiques plongés dans l'une des grandes aventures de ce millénaire. Parmi eux, Magali Boussimane.
Ce qui nous fait rêver, c'est de découvrir toujours ce qu'il y a à côté de nous, de découvrir une roche plus précisément, de voir ses textures, les traces que peuvent faire les roues quand le rover du coup se déplace. Et du coup, on suit ses premiers pas, comme quand vous lâchez la main d'un enfant. Chaque moment où on a pu récolter les résultats de ce qu'on avait fait, ça a été à chaque fois une explosion de joie. Premier tir, le premier pointage réussi, la première image qu'on a pu recevoir, on se dit « Ah !» Et toujours de se demander à quel moment on va pouvoir découvrir quelque chose qui va vraiment faire avancer la science, sachant qu'on a l'impression quand même de contribuer tous les jours à l'évolution des découvertes qui sont faites justement sur cette planète. Et nous, ça nous fait rêver, c'est beau, et on est content que ça puisse justement se transmettre vers les gens, parce que dans ce monde justement de Covid, ça apporte un petit peu de rêve et ça fait juste briller les yeux.
Magali Boussimane, l'une des scientifiques engagées dans la mission Persévérance au Centre National d'Études Spatiales à Toulouse, où Emmanuel Macron sera donc aujourd'hui.
Le président de la République qui aura une autre raison d'avoir les yeux tournés vers le ciel.
Il assistera aussi depuis le CNES au premier exercice de défense spatiale en Europe. La défense spatiale, de quoi parle-t-on exactement au Leroy?
Écoutez, c'est un exercice totalement inédit en France et même, on peut le dire, en Europe. Il mobilise une soixantaine d'opérateurs spatiaux à Toulouse, mais aussi à Paris, à Creil et à Lyon. Il y aura même des Américains en ligne depuis le Colorado. Alors leur mission, c'est de gérer une crise géopolitique autour d'un continent fictif situé au milieu de l'Atlantique. La France est impliquée et là, il y a une succession d'événements spatiaux qui se bousculent. La découverte d'un nouvel engin spatial, inconnu jusque-là, ou encore un tir d'armes anti-satellites qui provoque la chute sur Terre d'une cascade de débris mettant en danger les populations. Alors, ce n'est pas de la science-fiction. Hein. Rappelez-vous, il y a 4 ans, ce satellite espion russe qui s'était rapproché d'un peu trop près d'un satellite français, militaire français de télécommunications.
Alors, c'est pas de la science-fiction, mais c'est pas juste un exercice non plus.
Non, parce que si c'était juste un exercice, eh bien le président de la République ne se serait pas déplacé, ou alors très discrètement. Non, c'est véritablement une démonstration de force. La France veut montrer qu'elle a une vraie politique spatiale de défense et elle y met les moyens. 5 milliards d'euros pour renouveler ses capacités spatiales.
Merci Aude Leroy pour la participation à ce dossier spatial ce matin sur Europe 1.
Et à 8h04, on revient sur Terre. Une planète marquée par une crise sanitaire et économique sans précédent qui ne touche pas tous les habitants de la même façon.
Prenons les Français par exemple. Ils ont beaucoup moins consommé ces derniers mois sous l'effet des restrictions sanitaires, mais leurs revenus n'ont pas fondamentalement baissé. Conséquence, révélée par l'INSEE, Olivier Samin, ils ont mis beaucoup d'argent de côté.
Oui, 10 000 euros, c'est la somme moyenne que les 25% de ménages les plus riches ont pu épargner l'année dernière, faute de pouvoir consommer. Les 25% les moins riches, eux aussi, ont pu économiser, mais beaucoup moins, en moyenne 200 euros seulement. Logique, les restrictions sanitaires ont surtout pénalisé les achats d'agréments, restaurants, voyages, loisirs. Autant de dépenses que les ménages modestes peuvent rarement s'offrir. Mais ce que révèle l'INSEE, c'est qu'avec ces 200 euros épargnés l'année dernière, les 25% de ménages les plus modestes ont vu leur patrimoine financier bondir de 32%, tandis qu'avec leurs 10 000 euros non consommés, les ménages les plus aisés ne se sont enrichis que de 6%. Quand le pauvre se voit soudain riche, le riche pourtant mieux loti, ne se rend compte de rien, ou presque. La Fontaine aurait pu en faire une fable.
Les explications et la morale d'Olivier Samin du service économie d'Europe 1.
L'économie qui revit au rythme des campagnes de vaccination, une campagne marquée aujourd'hui par les difficultés d'AstraZeneca.
Il y a d'abord le problème des livraisons. Dans ce domaine, AstraZeneca ne fait pas encore assez d'efforts. Accusation portée par le commissaire européen Thierry Breton sur Twitter. Le laboratoire devait fournir à l'Union européenne 40 millions de doses au premier trimestre et d'après nos informations, il n'en fournira que 30 millions, 10 millions de moins et les livraisons pourraient encore baisser.
AstraZeneca qui doit aussi faire face à la méfiance de plusieurs pays européens.
Trois pays ont décidé hier de suspendre l'utilisation de ce vaccin. Décision prise par précaution par le Danemark, la Norvège et l'Islande en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins. Mais la France ne suit pas ce mouvement. Elle entend poursuivre les injections, comme l'a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran.
Imaginez que toute la population française se fasse vacciner en 24 heures. Vous auriez le lendemain le même nombre d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux, de thromboses veineuses des jambes que n'importe quel jour. Et si vous prenez individuellement chaque situation, vous allez dire cette personne a fait un infarctus du myocarde, elle a été vaccinée la veille. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de causalité.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui tente donc de rassurer au sujet de ce vaccin AstraZeneca.
Dans un tout petit instant, on continue à parler de la vaccination, mais cette fois en Afrique. Ça se passe de l'autre côté de la Méditerranée, mais ça nous concerne, nous, directement. Vous allez tout comprendre. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h08 sur Europe 1, la suite du journal. Rémi Bossaron.
Ce n'est pas vraiment une surprise, mais les inégalités dans le monde entre les riches et les pauvres, ça marche aussi pour la vaccination. 76 pays n'ont toujours pas reçu la moindre dose. Parmi eux, de nombreux pays africains. Bonjour Victor Delande.
Bonjour.
Nous allons précisément voir avec vous comment s'organise la campagne de vaccination en Afrique et surtout les conséquences qu'elle peut avoir pour nous. Mais d'abord, je vous propose d'aller en Côte d'Ivoire, un pays qui vient de recevoir son premier lot de vaccins AstraZeneca. Reportage de François Hume.
Avez-vous eu la Covid-19 ?
Dans une grande tente climatisée installée aux abords du Palais des Sports d'Abidjan, environ 200 personnes patientent dans l'attente de la première injection du vaccin AstraZeneca. Beaucoup de personnes âgées, mais également des jeunes.
Compte tenu de cette pandémie, je pense qu'il est très important pour tout Ivoirien de venir se faire vacciner dans leur propre intérêt et dans l'intérêt du pays. Parce qu'il faut que le monde bouge, il faut que le monde avance.
Les forces de l'ordre sont prioritaires, tout comme les enseignants, les personnes de plus de 50 ans présentant des comorbidités et les agents de santé. Pour Hervé Brou, pharmacien, la campagne de vaccination est une nécessité et pas seulement pour les Ouest-Africains.
C'est un problème mondial. Il faudrait que tout le monde s'y mette pour qu'une fois pour toutes, cette maladie soit éradiquée. Si une partie du monde est vaccinée, que l'autre partie n'est pas vaccinée, la maladie est encore dans le monde et ça peut se répercuter encore sur la partie qui n'est pas vaccinée.
Mon ami, ça fait pas mal. Non, ça fait pas mal.
La Côte d'Ivoire a reçu 500 000 doses dans le cadre du programme COVAX de l'OMS, mais le pays ne compte qu'un seul centre de vaccination à ce jour. Quatre autres doivent ouvrir prochainement. La méfiance vis-à-vis du vaccin reste toutefois un problème majeur. Le gouvernement ne communique d'ailleurs pas pour le moment au sujet du nombre de personnes déjà vaccinées. Abidjan, François Hume, Europe.
Je reviens vers vous, Victor Delande. On vient d'entendre la stratégie ivoirienne, mais en fait, en Afrique, la réponse vaccinale est très différente selon les pays.
Oui, il y a presque autant de stratégies de vaccination que de pays sur le continent africain. Il y a d'abord ceux qui ont décidé de passer tout seuls des commandes directement avec des laboratoires pharmaceutiques. C'est le cas du Maroc qui a acheté 10 millions de doses du vaccin chinois. L'Égypte a également commandé 40 millions de doses à Sinopharm, le Sénégal 200 000 doses. L'Algérie, elle, a débuté sa campagne avec le sérum russe Sputnik V. De son côté, l'Afrique du Sud avait commandé 1,5 million de doses AstraZeneca avant de suspendre sa campagne car il y a des doutes sur l'efficacité de ce vaccin sur le variant sud-africain. À côté de ces démarches individuelles, l'OMS a lancé le dispositif COVAX qui engage les pays riches à fournir gratuitement des vaccins aux pays en voie de développement. 600 millions de doses devraient arriver au cours de l'année 2021, de quoi vacciner 20% des Africains.
Alors ce qu'il faut comprendre, Victor, c'est qu'il y a urgence à accélérer la vaccination aussi en Afrique.
Oui, car d'abord la deuxième vague est plus forte que la première et certains pays sont proches de la saturation hospitalière. C'est le cas notamment au Cameroun, au Nigeria, au Mozambique, au Zimbabwe. Et depuis la fin du mois de février, 14 millions de doses de vaccins ont été livrées à 22 pays africains à travers le dispositif COVAX. C'est très peu et pour le professeur Yab Boum, épidémiologiste camerounais et représentant pour l'Afrique d'Épicentre, la branche de recherche de Médecins sans frontières, les pays développés sont obligés d'investir dans la vaccination en Afrique.
Ce n'est pas de la charité. Le monde est devenu un petit village. Et les mouvements des populations font qu'il faille limiter le virus partout dans le monde et en même temps. Si on vaccine tout le monde aujourd'hui en Europe, ok, on aura une immunité collective, mais si les Africains et les autres ne sont pas vaccinés, bah forcément le virus va revenir et l'épidémie va repartir.
Et l'une des clés de cette vaccination massive dans les pays en voie de développement, ça serait de libérer les brevets des vaccins. De plus en plus de voix le réclament, mais les laboratoires pharmaceutiques refusent catégoriquement.
Merci Victor Delande pour ce dossier complet sur la campagne de vaccination en Afrique.
Il y a un an, Adèle Haenel quittait la cérémonie des Césars et criait sa colère.
La honte, on se souvient du cri lancé par la comédienne alors qu'était récompensé Roman Polanski, réalisateur accusé de viol. Un an plus tard, ce soir, les Césars sont de retour et vont tenter de montrer un nouveau visage dans un contexte compliqué aussi par la crise sanitaire. Mathieu Charrier.
130 personnes seulement seront assises sur les fauteuils rouges de l'Olympia, les nommés et les remettants, qui n'ont pas le droit de venir accompagner. Côté remettant, justement, avec Marina Foïs, maîtresse de cérémonie, on attend notamment Valérie Lemercier, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Louis Garrel ou Nathalie Baye, mais pas Adèle Haenel. Il devrait quand même y avoir des prises de parole politiques sur la réouverture des salles, bien sûr, surtout quand on sait que Blanche Gardin et Laurent Lafitte, réputés pour leur humour corrosif, sont à l'écriture des sketchs et vidéos qui rythmeront la soirée. Benjamin Biolay et son orchestre la mettront en musique. Une chose est sûre, il fallait que cette cérémonie ait lieu, explique la productrice Michèle Halberstadt.
Il y a des films qui sont sortis, il y a des films qui ont été faits, donc il faut faire des Césars. Il y a des Oscars, il y a des Golden Globes, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de César. Et c'est aussi l'occasion de dire, par rapport à l'année dernière, les choses ont changé.
Alors, trois films partent favoris, Le Marivaudage d'Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, la comédie sociétale absurde Adieu les cons d'Albert Dupontel et L'amour destructeur et mélancolique de l'été 85 de François Ozon. La troupe du Splendide recevra un César anniversaire alors que le César du public est supprimé. Un nouveau prix apparaît, le César des lycéens, sur le modèle du Goncourt.
Mathieu Charrier, chef du service Société d'Europe 1.
Et la cérémonie des Césars ce soir donc sur Canal+. Merci beaucoup Rémi Bossaron, c'était le journal de 8h sur Europe 1, 8h13.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans un tout petit instant, Sonia Mabrouk et son invité, le professeur Xavier Nassif, directeur d'études, directeur de l'Institut Pasteur de Lille, invité d'Europe 1 ce matin, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, le professeur Xavier Nassif, directeur de l'Institut Pasteur de Lille.
Bienvenue à vous et bonjour professeur Xavier Nassif.
Bonjour Madame Mabrouk et merci de votre invitation.
Voilà, merci d'être avec nous. Nous allons, professeur, largement évoquer le traitement sur lequel l'Institut Pasteur de Lille travaille. Mais tout d'abord, je voudrais avoir votre avis sur ce qui se passe autour du vaccin AstraZeneca suspendu par des pays scandinaves du fait de rares cas de thrombose. La France, professeur, maintient son utilisation. Est-ce prudent ?
Écoutez, moi je pense que le ministre de la Santé a pris la bonne décision. Ce vaccin AstraZeneca, premièrement, est un vaccin qui marche. Est un vaccin qui peut être fait par les médecins traitants parce qu'il ne nécessite pas de mécanisme de conservation particulier. Donc c'est un vaccin, comme il marche et qu'il est facile à faire, qu'il faut faire. La question est de savoir, c'est quelques cas de maladies thromboemboliques qui ont eu lieu. Si j'ai bien compris, on parle d'une vingtaine de cas, alors qu'il y a plus de 5 millions de personnes qui ont été vaccinées en Europe avec ce vaccin. La maladie thromboembolique est une maladie fréquente. L'embolie pulmonaire n'est pas du tout une maladie rare. Donc, est-ce que sur 2 mois, parmi 5 millions de personnes qui n'auraient pas été vaccinées, nous n'aurions pas facilement trouvé 20 cas d'embolie pulmonaire, voire même plus? Donc, je pense que rattacher un événement qui peut être un épiphénomène lié à toute autre chose à l'injection d'un vaccin me paraît extrêmement compliqué et préjudiciable. Il ne faudrait surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain quand on sait que le retour à la vie d'avant, si on veut que nos cafés rouvrent et que nous retournions au restaurant, il va falloir qu'on se vaccine. Donc ça me paraîtrait délétère de proscrire ce vaccin pour ces raisons.
Vous écoutez, professeur, on comprend que le rapport bénéfice-risque est assez évident, mais tout cela ne va pas favoriser la réputation de ce vaccin AstraZeneca. Soyons concrets, professeur Nassif, si quelqu'un de votre entourage vous demande conseil par rapport à ce vaccin, parce qu'il doit se vacciner là, dans quelques jours, peut-être nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment, que lui diriez-vous ?
D'aller se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca.
Sans aucune hésitation.
Sans aucune hésitation, voilà.
Et le principe de précaution ne commande-t-il pas, professeur Nassif, de faire une pause pour avoir simplement du recul et un peu plus d'études et d'enquêtes ?
Bah, on a déjà 2 mois de recul. Je veux dire, donc qu'est-ce qu'on veut de plus? Je veux dire, on a rassemblé une vingtaine de cas, mais si on cherchait, peut-être qu'on trouverait que finalement, il y a bien eu 20 infarctus du myocarde dans ces 5 millions de personnes depuis 2 mois. On pourrait peut-être l'associer. Enfin, ça me paraîtrait déraisonnable dans l'état actuel des choses.
Alors, Sanofi annonce ce matin le lancement, professeur Nassif, des premiers essais sur l'homme de son second projet de vaccin. Le premier étant toujours en phase de test. Ce second projet qui est basé sur l'ARN messager, c'est un espoir ?
Je suis ravi que Sanofi se lance dans l'ARN messager, qui est un vaccin qui marche très bien. Je veux dire, on a découvert avec cette pandémie l'intérêt de faire des vaccins ARN messager. Donc je comprends que Sanofi ait envie de s'y mettre, alors qu'elle a peut-être un savoir-faire déjà pour faire des vaccins protéiques très importants. Ça, nous le savons, mais je trouve que c'est normal et ça me paraît être ce qui pourrait augmenter notre capacité vaccinale dans ce domaine.
Professeur Nassif, c'est bien la technologie de l'ARN messager qui semble être finalement la plus efficace. Et évidemment, nous avons en tête, c'est une blessure d'orgueil. Et là, je parle de l'Institut Pasteur de manière générale qui n'a pas misé sur cette technologie-là. Pourquoi,
l'Institut Pasteur de Paris avait misé sur un virus qu'ils avaient déjà utilisé pour faire des vaccins, qui est un virus de la rougeole atténuée, et qui marchait. Donc c'était tout à fait logique. Ils avaient cette technologie en main, ce savoir-faire, de le tester dans ce cadre-là. Il s'avère que dans le cas spécifique du Covid, cette technologie n'a pas apporté les résultats qu'on espérait. Mais c'est de la recherche. Et si à chaque fois qu'on commence un projet, on était sûr de gagner, je veux dire, ce serait trop beau.
Non, professeur, bien sûr, les chercheurs français sont bons, mais la recherche française ne doit pas s'interroger davantage, parce que finalement, c'est ce qu'on va retenir, c'est que la France n'a pas son vaccin pour le moment.
Oh, moi, je vous trouve très dur avec les chercheurs français. Je pense que les chercheurs français sont... Il y a d'excellents chercheurs,
bien
et d'ailleurs,
sûr.
Il y en a beaucoup qui sont à l'étranger. Du reste, la personne qui dirige Moderna, qui a mis au point le vaccin ARN messager, est un Français. Je pense que dans le cas présent de l'Institut Pasteur, je comprends qu'ils aient fait ça à Paris. Je veux dire, ils avaient une technologie en main, un savoir-faire en main, ils ont voulu l'exploiter. Dans ce cas présent, ça marche pas. On a découvert l'intérêt de l'ARN messager à l'occasion de cette pandémie. Est-ce qu'il y a un an, est-ce que quelqu'un aurait parié que ça allait marcher comme ça ?
Non, mais je vous disais, par rapport à la recherche, professeur, c'est-à-dire, nos chercheurs sont très bons, mais ils sont à l'étranger.
Pas tous, il y en a beaucoup en France.
Et vous en faites pas. En tout cas, il y en a beaucoup, justement, à l'Institut Pasteur de Lille, et on va en parler. Pourquoi ? Parce que sur les traitements, professeur, d'abord, pourquoi il est si peu question dans la communication de manière générale, y compris de l'exécutif, des médicaments, des traitements, alors que ça fait partie de la stratégie de sortie de crise également ?
On apprend à nos étudiants en médecine que pour traiter une maladie, il faut un traitement prophylactique et un traitement curatif. Dans le cas présent, le traitement prophylactique, c'est le vaccin, et le traitement curatif, c'est des antiviraux, à côté des traitements symptomatiques pour diminuer les symptômes, comme les corticoïdes, par exemple. Donc, c'est sûr que un traitement antiviral serait le plus que bienvenu. Et si, il y a un an, nous avions eu un traitement antiviral disponible, nous n'en serions pas là actuellement. C'est-à-dire, la pandémie
Il n'y aurait pas eu de confinement successif.
On aurait sans doute pu éviter un confinement, etc. Mais malheureusement, nous n'avions pas d'antiviraux il y a un an contre le SARS-CoV-2 qui est responsable de la Covid.
Mais vous y travaillez à l'Institut Pasteur de Lille, professeur depuis plus d'un an, sur une fameuse molécule dite repositionnée, prometteuse. En quoi cela consiste ?
Écoutez, c'est très simple. Il y avait une ressource sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille qui appartient toujours à l'Université de Lille et qui a été gérée par une start-up, Aptéus. Et cette ressource comporte 2000 médicaments. C'est-à-dire des médicaments qui étaient donnés pour d'autres indications. Ça pouvait être l'hypertension, ça pouvait être exactement toutes autres indications. Et à côté de cette ressource, il y a une des seules unités en France, dirigée par Jean Dubuisson, qui travaillait sur les coronavirus, la recherche fondamentale sur les coronavirus. Donc en fait, il y avait une mayonnaise à faire prendre, et ce qui s'est passé, c'est que ces chercheurs biologistes, qui sont des chercheurs CNRS et INSERM, se sont mis à travailler avec les chimistes qui possédaient cette chimiothèque pour essayer de voir s'il n'y avait pas dans cette chimiothèque une molécule capable d'inhiber la réplication du
et
virus.
Et apparemment, on l'a trouvé. C'est un médicament, un antibiotique, c'est bien ça, professeur
Alors, c'est
Nassif.
Un antibiotique qui a été donné pour les rhinopharyngites, c'est-à-dire pour les maladies, les angines, en gros.
Et, que l'on connaît, hein, vous pouvez le dire.
C'est l'octophène, c'est du clofoctol.
Exactement.
Qui a été retiré du marché en France dans les années 2005, parce que comme il était prescrit pour les rhinopharyngites, qui sont des maladies qui guérissent toutes seules, à l'époque où la Sécurité sociale a revu l'intérêt de certains médicaments, a dit, bah, comme ça guérit tout seul, c'est peut-être pas absolument d'intérêt médical primordial. Donc, le médicament a été de moins
mais
en moins prescrit.
Il peut être prometteur, professeur Nassif, et dans ce cas-là, il serait administré au premier symptôme de la maladie, c'est-à-dire au tout début, pour
Très
réduire
tôt,
véritablement anesthésier la charge virale.
Voilà, les antiviraux doivent être prescrits très tôt. C'est-à-dire que l'idéal, ce serait de le prendre quasiment quand vous avez le contage. C'est-à-dire quand vous êtes en contact d'un malade, le plus tôt possible, si on veut que ça marche. Voilà.
Mais la question, professeur Nassif, c'est êtes-vous soutenu suffisamment ? Alors, pas financièrement, oui, puisque vous avez des dons, des subventions, à la fois de la région, à la fois des dons privés également.
Voilà, c'est ça. Donc, lorsqu'on a trouvé ce médicament, on a cherché le moyen de démontrer que ça pouvait marcher. Pour ça, il faut faire des essais cliniques. C'est absolument impératif. Donc, on a fait un appel aux dons et nous avons eu beaucoup de dons. Petits dons, gros dons, très gros dons.
Il n'y a pas de petits dons, tout est important.
Il n'y a pas de petits dons, tous les dons nous engagent absolument.
Et les gros, c'est LVMH notamment.
C'est ça qui nous a fait un très gros don pour permettre de réaliser cet essai clinique, avec une aide publique, l'aide de la région. Et nous espérons pouvoir commencer les essais cliniques d'ici fin avril, début mai. Voilà, on a d'abord déposé un dossier. On travaille actuellement avec les autorités réglementaires pour la conception de cet essai clinique.
Mais est-ce que ça va assez vite, professeur ? Parce que, pour tout dire, vous avez été contraint de freiner, car les essais, dans vos essais, vous aviez proposé un essai extrêmement ambitieux. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le comité qui pilote les essais thérapeutiques, le CAPNEC, vous a dit de limiter un peu vos ambitions. Pourquoi ?
C'est-à-dire que, si vous voulez, les équipes ont déposé un dossier, comme vous le dites, très ambitieux, qui impliquait un grand nombre de la mise sous traitement d'un grand nombre de patients. Ils nous ont dit que le dossier était très bien, je veux dire qu'il y avait des espoirs dans ce traitement, ils n'ont pas du tout été négatifs, mais ils nous ont demandé de commencer par un essai un peu plus restreint, de façon à ne pas imposer à beaucoup trop de patients, d'emblée, de recevoir un traitement dont on ne sait pas toujours s'il marche cliniquement.
Mais professeur, nous sommes en guerre contre cette épidémie. Et à la guerre, est-ce qu'on demande aux soldats de lever le pied ?
Vous parliez du principe de précaution tout à l'heure. Donc, je pense que les autorités réglementaires sont dans leur rôle et nous étions dans la nôtre.
Entre la précaution et le précautionnisme, il y a des nuances.
L'essai clinique va avoir lieu. C'est juste une question de quelques semaines.
C'est important parce qu'il peut y avoir un espoir sur cette molécule. Et puis, professeur, pour les années à venir, parce qu'on est le nez sur le guidon, malheureusement, avec cette épidémie, mais on ne peut pas subir chaque épidémie. Est-ce qu'on va apprendre de nos erreurs et comment, selon vous ?
Alors, écoutez, c'est ce que je vous disais, c'est qu'en d'autres termes, c'est le troisième coronavirus qui, en moins de 20 ans, nous pose un problème. On a eu le SARS-1, on a eu le MERS, et là, on a le SARS-2. Donc, je pense que ce qu'il faudrait de nos jours, c'est quand même se dire que les coronavirus ont une propension à passer de la chauve-souris à l'homme, qui est quand même relativement importante, et personne ne peut exclure qu'on n'aura pas une autre pandémie dans les années à venir. Donc, pour ça, je pense que ce qu'il faudrait, c'est anticiper. Et là, c'est assez facile. Il faudrait faire un anti-pan-coronavirus. C'est-à-dire, déjà travailler sur une molécule antivirale qui permettrait de prévenir l'ensemble des infections à coronavirus. Comme ça, si une autre pandémie à coronavirus survenait...
C'est-à-dire une molécule universelle ?
Contre tous les coronavirus, contre tous les virus, mais contre tous les virus de cette famille. Et c'est assez faisable parce qu'ils ont des molécules en commun, des cibles en commun. Donc, on doit pouvoir envisager de faire une molécule qui inhiberait la plupart des coronavirus. Avec nos très bons chercheurs français.
Professeur, est-ce que vous reviendrez pour annoncer, on l'espère, que votre molécule, ce médicament est prêt ?
Et c'est tout le mal que je nous souhaite.
Très bien. Alors, je vous dis rendez-vous à bientôt, on l'espère.
Merci beaucoup, madame.
À vous de même, professeur Xavier Nassif. Bonne journée ainsi qu'à nos auditeurs.
Merci, professeur, et merci, Sonia. Vendredi matin, quelques notes d'espoir, ça fait du bien aussi.
N'est-ce pas ?
On prend.
Allez, on continue.
On prend. 8h27, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Mathieu Béliard.
Très bon réveil à toutes et à tous. Dans un tout petit instant, l'information, la météo. Vous restez sur Europe 1.
Europe Matin. Le 7-9. Mathieu Béliard.
8h30 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Carole Ferry.
Le laboratoire français Sanofi annonce ce matin le lancement des premiers essais sur l'homme de son second projet de vaccin contre le Covid. Il s'agit des essais de phase 1 et 2 qui permettent de vérifier s'il n'est pas dangereux et qu'il est efficace. Mais c'est la phase 3 réalisée sur bien plus de patients qui permettra de vraiment déterminer son efficacité. Le vaccin AstraZeneca, lui, est dans l'œil du cyclone. Aujourd'hui, plusieurs pays ont décidé d'arrêter de l'utiliser en attendant d'en savoir plus sur d'éventuels risques de thrombose. Pas la France. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, estime que le bénéfice-risque reste très supérieur. Le bénéfice reste très supérieur au risque. Il y a pour le moment 30 cas pour 5 millions de personnes vaccinées. En France, nous souhaiterions plutôt avoir davantage de doses, sauf qu'AstraZeneca ne tient pas ses promesses. L'Europe attendait 100 millions de doses. On en est loin. Et Thierry Breton n'a pas hésité à tweeter sa colère hier, Isabelle Horry.
Oui, AstraZeneca fait des efforts, mais pas tous sont possibles, écrit Thierry Breton. Si cela continue, les objectifs du premier trimestre ne seront pas atteints, poursuit le commissaire européen. Alors on sait, AstraZeneca a déjà fortement réduit ses livraisons. Les 27 attendent quand même 40 millions de doses ce trimestre. Eh bien, selon mes informations, si rien ne change, on devrait plutôt tourner autour de 30 millions seulement et la baisse continuerait au deuxième trimestre. La ministre de l'Industrie a déjà réagi. AstraZeneca doit respecter ses engagements et nous présenter un plan d'action précis, réclame Agnès Pannier-Runacher. L'Europe défendra ses intérêts, promet de son côté le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune.
Et alors comment vous l'expliquez, Isabelle ?
Alors, les premiers ennuis d'AstraZeneca venaient de son usine belge. Pour compenser cette production plus faible que prévu, la compagnie comptait importer des doses de ses sites du reste du monde. Et maintenant, c'est là que ça coince. D'abord, Londres a obtenu que les usines britanniques du groupe tournent uniquement pour les Anglais. Et ensuite, impossible de faire venir des vaccins d'Inde ou des États-Unis comme prévu. Ces pays restreignent les exportations, a expliqué hier le responsable de la vaccination en Suède. On attend les explications officielles.
Merci Isabelle Horry pour vos explications. Et la situation sanitaire devient très préoccupante en région parisienne. Un patient est hospitalisé en réanimation toutes les 12 minutes. La déprogrammation des opérations ne suffira pas. Des dizaines, voire des centaines de patients vont devoir être transférés dès ce week-end, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran. Et partout en France, il n'est pas toujours simple de faire respecter les règles de distanciation, à l'école en particulier, à la cantine. Alors à Nantes, un établissement scolaire a eu cette idée, un food truck dans la cour pour désengorger la cantine. Reportage de Charles Guyard.
Alors là, on a une heure pour servir 200 repas.
Chaque midi, c'est le grand rush pour Jérémy, restaurateur ambulant.
Alors aujourd'hui, c'est tacos, bœuf haché, sauce barbecue, avec frites et sauce fromagère. Et en dessert, un petit yaourt aux fruits.
D'habitude, stationné en ville, son food truck est cette fois garé dans la cour du lycée privé Notre-Dame de toutes aides. Une idée du chef d'établissement, Pierre Capelaire, pour désengorger la cantine.
Avec la distanciation de 2 mètres entre certains espaces en restauration scolaire, la surface n'étant plus suffisante pour accueillir les 1300 rationnaires chaque jour.
200 élèves récupèrent ainsi leur repas sur présentation de la carte scolaire, puis déjeunent sous un auvent dressé juste à côté. Et tout le monde est content. Jérémy, le responsable du food truck.
Dans les zones où on travaille, il y a une moindre activité en ce moment, due au télétravail d'ailleurs. Donc effectivement, là, ça permet de faire un peu de volume.
Les lycéens, eux, sont ravis de modifier un peu l'ordinaire.
C'est sympa, ouais, c'est bien meilleur qu'à la cantine. C'est tout le temps les mêmes trucs, c'est riz, blé, pâtes. Là, ça change.
C'est plus convivial. Maintenant, il fait beau, donc c'est pas mal de manger en extérieur.
Quant au directeur qui a fait du présentiel sa grande priorité, son initiative est saluée par les parents d'élèves, pour qui le prix reste le même qu'à la cantine. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.
Je vais avoir une pensée, pardon, pour tous les enfants qui écoutent Europe 1 dans la voiture avec les parents et qui, eux, ont la cantine normale, alors que certains endroits...
Vous rêvez d'avoir un food truck dans la cour d'Europe 1.
Si on me met un food truck, je peux retourner au collège.
Si vous pouviez inviter Mathieu, ce serait sympa. Enfin, malgré la fermeture des cinémas depuis des mois, la cérémonie des Césars aura bien lieu ce soir à l'Olympia. Contraintes sanitaires obligent, beaucoup de sièges seront vides, mais la plupart des nommés devraient tout de même être présents.
Merci beaucoup. Coucou Carole Ferry, c'était le journal de 8h30 et Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
C'est une affaire de giboulées. Les giboulées sont l'une à côté de l'autre sur l'ensemble des côtes de la Manche. Elles seront là tout ce matin. Après cet après-midi, ce sera pas trop mal dans ces côtes, un peu d'éclaircie. Justement, à l'heure de la cantoche, eh bien, sur la région parisienne, la Mayenne, la Champagne, les Ardennes et les Pays de la Loire, il y aura des giboulées. Ce sont celles de la Manche qui sont descendues de 150 km. Et puis, à l'intérieur des terres, du Poitou-Charentes à Rhône-Alpes, en passant par le Massif central, ce sera un temps, ma foi, d'averse mais sans excès. Dans le sud-ouest, qu'il ne fait pas beau, mais ça va s'arranger. En Méditerranée, du soleil, le long des régions qui bordent la Méditerranée. Les températures entre 11 et 17 degrés. Là, demain, ça sera exactement le même type de temps. Et dimanche, ce ne sera pas trop mal. C'est la meilleure journée du congé de fin de semaine. Quant à la semaine prochaine, eh bien, le grand froid serait... Bon, pas le grand froid. Le gros froid sera là à partir du 20.
Ouais. C'est l'échelle, c'est grand, c'est... gros.
Oui, voilà. Grand, gros. D'abord, okay. Grand frais mardi, jusqu'à mardi, et ensuite gros froid.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. 8h35, dans un tout petit instant, notre santé. Jimmy Mohamed.
Oui, et ce matin, je vous propose un régime qu'on ne vous a jamais proposé. Un régime qui commence tout simplement par dormir.
À 8h30 du mat, pourquoi pas. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Jimmy Mohamed, vous allez nous parler ce matin du sommeil. Sommeil qui pourrait nous aider, écoutez bien, à perdre du poids.
Oui, c'est vrai qu'on résume souvent le sommeil à un processus passif, alors qu'il s'y passe des choses absolument extraordinaires. Vous avez de nombreux paramètres biologiques qui vont modifier, notamment la température. Vous allez en plus produire notamment des hormones qui, normalement, vous empêchent de vous réveiller la nuit pour manger. Car en fait, la nuit, ça correspond à une période de jeûne. Et c'est pour ça qu'on dit le matin, prendre le petit déjeuner, c'est rompre le jeûne, ou en anglais, breakfast, casser le jeûne. Et bien justement, vous allez produire le soir une hormone qui s'appelle la leptine. La leptine, c'est l'hormone qui est responsable de la satiété. Et à l'inverse, vous allez bloquer une hormone qu'on appelle la gréline qui est responsable de l'appétit. Or, le problème, c'est que lorsqu'on prive des gens de sommeil, eh bien, ces hormones vont changer, elles vont se modifier. Celle de l'appétit va augmenter et celle de la satiété va diminuer. Et on le sait très bien dans des études qui ont montré que les personnes qui vont manquer de sommeil eh bien vont consommer en journée 300 kilocalories de plus d'aliments que ceux qui dorment suffisamment. Alors vous allez me dire, 300 kilocalories c'est peu, mais au bout d'une semaine, ça fait 2000 calories et donc c'est quasiment une journée de repas. Et puis il n'y a pas que la quantité de sommeil qui est importante, il y a aussi la qualité. Une autre étude porte sur des femmes qui vont avoir des nuits de mauvaise qualité. Eh bien on s'est rendu compte que c'est corrélé à une plus grande consommation de nourriture et une alimentation de moins bonne qualité. Et donc finalement, pour bien maigrir, il faut déjà bien dormir.
Et si tout ça c'est lié, est-ce que du côté de l'alimentation, Jimmy, il y a des choses qui pourraient, à l'inverse, hein, favoriser une bonne nuit de sommeil?
Et oui, c'est tout simple. Manger équilibré, ça paraît tout bête. En faisant attention notamment au sucre rapide. Dans une étude, ça a montré qu'on va augmenter une période du sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et puis il y a certains aliments, notamment le kiwi, qui améliore tous les paramètres biologiques. On ne sait pas trop exactement pourquoi. Même chose pour la cerise. La cerise permet de mieux dormir, ou une consommation de riz le soir serait montrée une action bénéfique. Et puis il y a d'autres études qui suggèrent que le régime méditerranéen, celui à base de légumineuses, de poissons, de viande blanche, permettrait justement de bien dormir.
De mozzarella, de pizza, non,
ça malheureusement, non, ça c'est dans vos fantasmes Mathieu. Et bien en fait ces aliments c'est riche en mélatonine et en sérotonine. Et puis parfois on le sait, on chante une berceuse au bébé le soir. Est-ce que vous savez pourquoi chanter une chanson au bébé le permet de dormir?
Aucune idée. Eh bien, alors là, franchement,
on pense que souvenez-vous de l'homme préhistorique lorsqu'il dormait dans la caverne. Oui. Eh bien, à l'entrée de la grotte, quelqu'un devait chanter et tant que la personne chantait, ça veut dire qu'il n'était pas mangé par un animal sauvage. Et donc peut-être qu'on aurait gardé ce réflexe archaïque du fait de chanter nous permettrait de mieux nous endormir. Oui. Et donc tout ce que je veux vous dire ce matin, c'est que pour prendre soin de sa ligne et de sa santé, eh bien, ça commence par une bonne nuit de sommeil.
Oui, vous comprenez bien que si vous chantez, c'est que vous êtes vivant. Merci beaucoup Jimmy Mohamed, ses conseils alimentation et santé. Et on vous retrouve à 15h sans rendez-vous avec Mélanie Gomez. 8h40 sur Europe 1, notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous nous parlez ce matin de cette tendance qu'ont les écoles à se rapprocher de la nature.
Oui, ça passe d'abord par enlever le goudron, débitumer les cours d'école. C'est plus qu'une tendance, c'est même un engagement politique. Pour la ville de Paris, cela correspond au plan de résilience adopté en 2017 qui vise à développer des cours d'école dites oasis, c'est-à-dire de les réaménager avec des sols non plus en goudron mais en copeaux de bois et surtout à y insérer de la végétation. Une initiative qui prend de l'ampleur quand on sait que si on mettait toutes les cours d'école bout à bout rien que dans la capitale, cela correspondrait, tenez-vous bien, à pas moins de 70 hectares de surface entièrement goudronnée. Alors, elles ont le double des avantages, ces surfaces, de capter la chaleur et donc d'accentuer l'effet d'îlot de chaleur urbain. Et aussi, cela déconnecte un peu plus nos enfants de la nature.
Cette reconfiguration des cours de récré, c'est aussi l'occasion d'aller un peu plus loin dans les méthodes pédagogiques.
Mais on remarque qu'il y a vraiment un changement de fond. En plus de végétaliser les cours d'école, la nature peut être aussi un pilier pédagogique, même si en France, je dois dire que cette conception est encore un petit peu timide. La première maternelle de la forêt a ouvert en 2018 et depuis, un réseau des écoles alternatives qui place la nature au cœur de leur pédagogie se développe doucement. Il doit y en avoir une quarantaine en France aujourd'hui. Tenez, rien qu'à côté de chez moi, dans le petit village de Retournac, en Haute-Loire, une école maternelle qui s'appuie sur la pédagogie de la méthode Steiner et des écoles de la forêt vient juste d'ouvrir.
Ah oui, tiens, expliquez s'il vous plaît, Fanny, ce que c'est que la méthode Steiner, la pédagogie Steiner et les écoles de la forêt.
Alors, en quelques mots, la méthode Steiner, c'est une pédagogie dans laquelle on profite des jeunes années des enfants pour leur faire apprendre avec leurs mains plutôt que de les placer en position de passivité face à l'instructeur. Et on les fait beaucoup aussi jouer avec des matériaux naturels et passer plus de temps dans la nature. Les écoles de la forêt, quant à elles, c'est un step au-dessus, ce sont des écoles qui se situent réellement dans les bois. Et là, tout se passe dehors. Les enseignements académiques, comme les sports ou les activités ludiques, avec des retombées très très intéressantes. Tiens, notamment sur la diminution de la violence à l'école. Autant en France, le mouvement a du mal à prendre de l'ampleur, autant chez nos voisins, c'est déjà un concept approuvé. Sur les 3000 écoles de la forêt qui existent en Europe, l'Allemagne en a plus de 1000 et le Danemark 700. D'ailleurs, au Danemark, 20% des élèves de maternelle du pays font leur scolarité, figurez-vous, à l'extérieur. Et il y aurait probablement un lien de causalité entre le fait de grandir dehors et d'être en avance sur tous les plans en matière de résilience écologique.
Notamment, merci Fanny Agostini, Notre Planète. Merci Fanny, 8h43. Dans quelques toutes petites secondes, Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presque.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h46, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Mathieu Béliard pour les infos du jour.
Et non, on ne retrouve pas Mathieu Béliard.
Oh
bien sûr.
Qu'est-ce
non, c'est Jean-La Salle.
Bah,
peut-être
vous
m'avez
oui.
reconnu à cette voix parfaite.
Bah, bien sûr.
Mais je tiens à intervenir car j'ai goûté particulièrement la chronique de Mlle Agostini, qui nous a parlé, excellente chronique, sur l'école de la forêt.
Eh oui.
J'étais un fervent élève de l'école de la forêt. J'ai la chance d'avoir des sangliers, excellents sangliers comme professeur. J'avais un arbre magnifique chêne comme tuteur. Nous avions des ronces en guise de surveillants pour tous les élèves en herbe que nous étions. Voilà ce que je souhaitais dire à votre
antenne. Oh, bah
avec sympathie et ouverture d'esprit, ouverture d'antenne comme vous l'avez offert. Et je vous en remercie.
Eh ben, merci à vous. Mathieu, vous êtes là quand même oui.
Avec grand plaisir dans la salle. Merci d'être intervenu. Comme ça, on dirait sur Europe 1. Oui, parce que c'est une antenne ouverte Europe 1. Bienvenue sur Europe 1. Allez, l'info du jour, c'est Marine Le Pen hier qui a déclaré qu'elle souhaitait faire un gouvernement d'union nationale.
Oui, tout à fait. Bonjour madame, bonjour Monsieur Cabrol, bonjour docteur Bobby Omar Sharif. Bonjour à toi, jolie métisse. Si tu veux une union, jolie métisse, nationale ou pas, tu as mon numéro, mon 06.
Oui,
donc revenons au sujet qui nous intéresse, l'union nationale. Est possible en effet, car il y a des racistes, des xénophobes à gauche comme à droite nous les connaissons, mais les gens de gauche aussi peuvent être racistes. Ils détestent, vous le savez, peut-être les Suisses ou les Américains. Voilà. On peut se retrouver donc dans un gouvernement d'union rassemblement national.
Merci madame Le Pen. Et puis l'autre info du jour, ce sont les caméras intelligentes dans les transports en commun pour contrôler le port du masque. Et certains, c'est vrai, s'inquiètent. Certains ont déjà peur pour la protection de leur identité.
Oui, c'est complètement con. Je me permets d'intervenir, je m'appelle Régis, je travaille dans les trains. Si tu veux pas, toi l'auditeur, qu'on te reconnaisse avec les caméras embarquées dans les transports en commun, ben suffit que tu portes ton masque, du con. Oh, les gens sont pas finaux. Oh, ils sont pas finaux, les gens. On vous reconnaîtra pas avec le masque. Et la casquette comme moi.
Ah, oui, merci.
Et la barbe aussi.
C'est bon,
et
merci.
Et les lunettes noires aussi.
Merci, monsieur Régis.
Oh, ils sont pas finaux.
Oui, on a bien compris.
Oh, les polémiques à
Allez,
la con.
Stop. Olivier Véran a été très clair hier, il ne suspendra pas le vaccin AstraZeneca, contrairement au Danemark, à l'Islande ou à la Norvège. On va en parler avec le Premier ministre Jean Castex. Bonjour Monsieur Castex.
Oui, bonjour Madame, Monsieur Lee, Monsieur Pécard, c'est comme moi, je serai papy et mamie qui ont peur. Non. Ils ne doivent pas s'inquiéter, ne pas claquer du dentier. Hein. Oui, non, ils ne risquent pas d'avoir, nous l'avons entendu avec le professeur Xavier Massif, ils ne risquent pas d'avoir d'effets secondaires avec le vaccin AstraZeneca.
Parce qu'il est sans danger, c'est ça?
Non, parce qu'on n'a pas de dose.
Bravo.
Vivi, ça simplifie tout. Ça simplifie tout. Attendez, j'ai mon ordinateur qui se vient de se mettre. Voilà. Alors, écoutez, non, personne ne nous livre rien. De toute façon, ça n'est pas grave. De toute façon, ne vacciner que 28 personnes par jour. Donc, on a le temps de voir s'il y a des problèmes. Vous voyez, certes, nous avançons lentement, mais la chance, c'est que nous avançons sûrement.
Donc, vous n'allez pas suspendre ce vaccin.
Au contraire. Hein? Au contraire, c'est d'ailleurs même une aubaine. Hier matin, on galérait pour trouver des vaccins et tout à coup, la providence, on va pouvoir acheter des stocks danois ou islandais à prix cassé puisqu'ils ont été vaccinés. Un petit peu comme à la foire fouille.
C'est rassurant. Alors revenons à la lenteur de la vaccination, Monsieur Castex. Le député Loïc Dombreval propose que l'on accélère la vaccination en faisant appel aux vétérinaires.
Écoutez, c'est une piste. C'est une idée. Après, attention au malentendu avec papy et mamie. Si vous dites « Mamie, il faut qu'on aille chez le vétérinaire, je voudrais que tu te fasses piquer.
Oh »
Attention, ça, elle peut mal le prendre. Attention, gare à votre héritage.
C'est une bonne mise en garde. Merci, Monsieur Castex. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, est avec nous maintenant. Monsieur Le Maire, depuis quelques semaines, vous incitez à dépenser l'épargne qu'on a accumulée pendant la crise pour relancer l'économie, c'est ça?
Oui, bonjour Madame Julie, bonjour. Monsieur Béliard, bonjour et bonjour à tous vos aimables sous-fifres. Monsieur Béliard, je sais que vous aimez cuisiner. Eh bien, cela tombe bien, j'ai quelque chose pour vous. Amateur de cuisine, craquez pour le Thermomix TM6 et ses 12 modes de cuisson qui vous permettront d'harmoniser les plaisirs du palais à la créativité culinaire. Avec le Thermomix TM6, plus aucune limite à vos innovations cooking. De la pâte à pain au bœuf bourguignon, vous aurez la chance...
Monsieur Le Maire, mais qu'est-ce que vous faites là?
Oui, me gâchez pas mon speech là, Madame Julie. J'essaye de lui fourguer un truc. Qui lâche un peu son pognon, le Béliard, merde. Dépensez les Français, putain, mais claquez là votre épargne, arrêtez de faire vos rats là. Moi je veux bien pas la taxer votre épargne, mais c'est pas pour la regarder moisir sous votre matelas. Mme Julie, tiens, Mme Julie, un aspirateur, ça vous dit?
Oh, j'en ai déjà.
Une pendule, 10 skis, OG Super Ski, 99,95€, payable en 3 fois. Le ski,
ça, non, mais attendez,
et 122 euros
le
les deux skis.
Oh, on a compris. Allez, Monsieur Le Maire, justement, pour permettre à cet argent de retourner dans l'économie réelle, vous avez facilité les donations entre générations.
Mais oui, on facilite les donations parce que voilà, les vieux, on les connaît, hein. Ils planquent des bifetons dans les boîtes de gâteaux tout secs. Les boîtes de gâteaux secs, ouais, ça sert à rien. Alors, autant qu'ils les donnent à leurs petits-enfants, les bifetons. Hein, les gamins, ça ne sait pas garder un sou, on le sait. Ça sent obligé de le claquer dans les crèmes de soins promues par Nabila. Hein. Alors allez-y les gosses, profitez du pognon de mamie. Hein. Demandez-lui une donation. Voilà, ça c'est l'avenir. Et puis si elle refuse, piquez-la dans la boîte à gâteaux. Oh là là, j'ai du mal.
Dans la boîte à gâteaux secs.
Voilà, c'est la même. Il faut piquer le pognon dans la boîte à gâteaux secs. Voilà. Vous risquez rien, de toute façon. Ils risquent rien, les gamins, parce que j'ai demandé à Darmanin de les couvrir, de pas trop regarder sur les bols de pognon des boîtes à gâteaux.
Tiens, une dernière chose, Monsieur Le Maire. Le groupe Renault annonce mettre en vente leur fonderie de Bretagne. 300 emplois sont concernés quand même.
Oui, alors, enfin une bonne nouvelle.
Mais si.
Les 300 chômeurs, ils seront bien obligés de dépenser leur épargne puisqu'il n'y a plus de pognon qui rentre. Hein. Et puis ça leur pendait au nez. Une fonderie en Bretagne, c'est pourquoi? Non mais franchement, fabriquer des chaudrons de druides? Non, et ouvrons les yeux, on est en 2021.
Merci Monsieur Le Maire, à bientôt. Allez, pour terminer, on va parler de Samuel Etienne qui va recevoir Jean Castex sur sa chaîne Twitch dimanche. Bonjour Samuel. Alors, bonjour. Votre communauté, on l'entend à peine avec ce bon. Votre communauté réagit de façon contrastée à votre invitation de Jean Castex. Certains trouvent que vous trahissez l'esprit indépendant du web en vous faisant récupérer par le gouvernement.
Vous ne m'entendez pas. Eh bien, allez, soyons fous, montons le son. Voilà. Bonjour à vous, bonjour Mathieu, qui nous écoutez. C'est le matin, on se réveille, on regarde les nouvelles, avec bien sûr un café et un croissant. Ici, on ne joue pas au FC anxiogène, on n'est pas bien sûr au Racing Club du stress. Et surtout, tout le monde peut s'exprimer. Ma communauté, comme le Premier ministre, peuvent s'exprimer tous autour, bien sûr, d'un café.
Ah,
allez,
c'est ça,
je n'ai pas été... Non, je le dis, je l'affirme, je n'ai pas été récupéré par le gouvernement, non. Vous savez comme quoi, comme moi, que le gouvernement est nul en communication, car qu'il soit nul à la télé ou nul sur Twitch, ça change. Voilà. Et moi, ça me permet tout à fait de développer mon application. Ah, excusez-moi, allô.
Ouais, Samuel, allô. Oui, Samuel, c'est Marco. Hein. Non mais dis donc, hein, non mais qu'est-ce qui se passe là? Tu te notre gueule là ou quoi? Moi sur BFM, je me fais chier à faire construire des plateaux, recruter 25 caméramans, tout passer en full HD. J'ai embauché Christophe Barbier, j'ai sorti Alain Duhamel de son EHPAD et monsieur Samuel Etienne, lui avec sa petite webcam et son PC d'occasion, il me chope une interview du Premier ministre. Dans sa vie cuisine pourrie. Non mais attends Samuel, c'est la concurrence déloyale, moi j'appelle ça. T'es fier de toi? Non mais est-ce que tu prends conscience du tort que tu causes au métier là?
Marco, essayons d'être bienveillants. Prenons rendez-vous si tu veux bien autour d'un croissant et d'un café. Puis, ah, pardon, on m'appelle sur l'autre poste.
Encore?
Ouais. Salut Samuel, c'est Jean-Pierre Cavache. Le roi de l'interview. Dis-moi, je regarde ton truc là. Tu cartonnes avec ton Twix là. J'ai décidé moi aussi de m'y mettre parce que je lâche rien. C'est ça, t'as tout compris. C'est ça qu'ils veulent les gens. J'ai bazardé mon Minitel. Dis-moi. J'ai l'ordinateur qu'on appelle. J'ai les fils derrière là. J'ai une ficelle où il y a marqué HDMI. HDMI, ça se branche où? Ça veut dire quoi? J'ai une autre ficelle, il y a marqué USB. C'est quoi tous ces fils? Ah putain! Aïe!
Qu'est-ce qu'il a?
Ah, j'ai pris une châtaigne!
Mais attention, Jean-Pierre!
Jean-Pierre, je ne sais pas. C'est un technicien qui m'a tout installé, très bienveillant. Mais je sais juste où brancher, moi, la cafetière. Mais surtout, je vais apprendre à débrancher le téléphone.
Nicolas Canteloup, bravo. Bravo à Nicolas Canteloup, à Philippe Cavrivière, Laurent Vassilion, Arnaud Demange, les auteurs de Nicolas et Julie. On vous retrouve sur Europe1.fr, bien sûr. Et lundi matin en direct, 8h45, pour une nouvelle revue de presque. 8h57 sur Europe 1. Philippe Vandel est là, Culture Média. La matinée continue sur Europe 1. Bonjour Philippe.
Bonjour Mathieu, vous êtes sur Clubhouse?
Pas encore.
Clubhouse, 5 millions
mais on en a beaucoup parlé
d'utilisateurs
vers
dans le monde. Mais oui, c'est le nouveau réseau social. On trouve des personnalités, des grands patrons comme Xavier Niel ou encore le docteur Jimmy Mohamed,
n'est-ce pas,
qui sera avec nous dans l'émission. Salut Jimmy.
Salut Philippe.
On sera également avec la journaliste Alban Guichard. On va tout vous dire sur Clubhouse. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que c'est pas du texte, mais de la voix. Et ce n'est pas anonyme, mais on parle avec son vrai nom.
On a attaché Jimmy là, pour pas qu'il s'en aille.
Ouais. Au sommaire également, les 30 ans de l'émission culte E égale M6, la plus ancienne émission scientifique de la télé. On sera avec son présentateur Marc Lesguy, qui ne rechigne pas à aller batailler, ferrailler sur Twitter. Et la polémique, il aime ça, il a des arguments. C'est un ancien ingénieur. Et puis la journaliste et autrice Lorraine Bastide, qui signe la postface de la réédition de l'essai féministe Scum Manifesto. Scum Manifesto de Valérie Solanas, qui ambitionnait de supprimer tous les hommes de la surface de la Terre. C'est réédité.
Je vais m'en aller alors. Je reviens lundi matin. C'est Pierre de Villeneuve qui va vous réveiller demain et dimanche, évidemment, sur la matinale d'Europe 1. Je reviens de lundi matin, oui, à 7h en direct. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.